Donc, bonjour, je vais vous présenter donc, les travaux qu'on a menés depuis le début de l'année. Donc, c'est des travaux qui sont en collaboration entre la DGA et le CALID, qui est le Centre d'analyse en lutte informatique défensive au sein du ministère des Armées, et en particulier donc, le lieutenant Paillet, Loïc Cloître et l'adjudant Chefien. Donc, je vais commencer par vous présenter le contexte de ces travaux et la méthodologie qu'on a suivie. Ensuite, Philippe vous présentera les algorithmes de détection d'anomalies qu'on a utilisés. Et enfin, Erwan présentera l'expérimentation qu'on a menée et les résultats obtenus. Donc, on se place dans le cadre d'une activité de hunting. Les analystes au CALID ont du temps à consacrer à cette activité-là, qui consiste à la recherche d'éléments suspects dans les logs collectés. Et donc, on peut décomposer cette activité en deux sous-activités complémentaires. Un premier niveau où on va rechercher des marquants dans les logs, type IP compromise à un moment donné ou nom de domaine contrôlé par des attaquants. Et un deuxième niveau, en appliquant des algorithmes d'analyse de données à cette masse de logs. Et donc notre but dans ces travaux n'est pas de faire de la détection d'intrusion classique, donc de détecter tous les comportements malveillants de faire cette séparation entre comportements malveillants et comportements normaux, mais bien juste d'aider l'analyste à prioriser ses investigations. Donc pour ça, on va déterminer les éléments les plus anormaux dans la population, et puisqu'on veut l'aider aussi dans ses investigations, lui donner les raisons de ses suspicions. Donc pour ça, on a suivi une méthodologie qui est classique. On est parti des logs qui sont disponibles. On va analyser ces formats, regarder quels types de champs sont disponibles, et ensuite, à partir de ces logs, définir des entités que l'on va chercher à qualifier. Donc ces entités peuvent être des machines, des utilisateurs, des flux réseau, suivant les types de données qu'on a à notre disposition. Et on va faire ça sur une période temporelle donnée. À partir de là, on va déterminer des caractéristiques de ces entités qu'on va calculer donc par entité et par période de temps. Ces caractéristiques vont constituer des vecteurs de métriques. On va pouvoir appliquer des algorithmes d'apprentissage non supervisés sur ces vecteurs de métriques. Donc dans notre cas d'usage, on a appliqué ça à des journaux de proxy d'accès à Internet. Les entités qu'on a considérées, c'est des machines internes au réseau qui sont identifiées par leurs adresses IP. La période temporelle qu'on a prise dans notre cas d'usage est 6 heures. Et les deux algorithmes qu'on va vous présenter, c'est un auto-encodeur et une forêt d'isolation. Et on a plus d'une trentaine de métriques, avec quelques exemples présentés ici, qu'on peut découper en trois grands groupes, des compteurs assez simples, type le nom de connexion HTTP qui utilise la méthode POST, des compteurs qui vont utiliser des informations de contexte supplémentaires, type des listes noires, et des compteurs de pics de connexion qui vont prendre en compte en partie la dynamique temporelle du comportement des entités et aussi l'historique, puisqu'on va calculer des seuils pour savoir quand est-ce qu'on dépasse, quand est-ce qu'on a un pic quand on dépasse le seuil. Philippe va maintenant vous présenter les deux algorithmes de détection supervisée qu'on a utilisés.
Bonjour. Donc, comme Frédéric vous l'a expliqué, notre objectif, c'est de fournir une aide à l'analyste dans sa quête d'identification de tentatives d'intrusion. Et pour ça, nous avons choisi d'appliquer des algorithmes non supervisés. Et je vais vous parler de deux algorithmes qui ont déjà été cités dans les exposés précédents, qui permettent de calculer des scores d'anormalité pour des vecteurs de métriques qualifiant le comportement des entités du réseau qu'on surveille. Donc, deux algorithmes que je vais vous présenter. Le premier est un réseau de neurones qu'on appelle auto-encodeur, et le second est un algorithme qui est qualifié d'ensembliste, une forêt d'arbres binaires appelée forêt d'isolation. Alors l'auto-encodeur, c'est un réseau de neurones qui est à l'origine destiné à réaliser de la compression d'images, essentiellement pour l'indexation des images dans les moteurs de recherche, et qu'on peut appliquer à la détection d'anomalies. Son architecture, elle est assez simple. Il ne s'agit pas d'un modèle profond. On a en fait simplement trois couches cachées, et la couche d'entrée et la couche de sortie ont autant de dimensions que le vecteur de métrique qu'on manipule dans nos analyses. Donc, bien qu'étant non supervisé, cet algorithme y possède quand même une phase d'apprentissage. Mais on va lui donner pour seul objectif de minimiser l'erreur commise lors de la reconstruction du vecteur. L'algorithme va compresser le vecteur de métrique en entrée et le redécompresser. Et il va nous fournir une mesure sous la forme d'une distance euclidienne dans l'espace des métriques qu'on observe, une distance entre le vecteur d'origine et le vecteur reconstruit. Donc de fait, à l'aide de cette mesure, on va pouvoir calculer un score d'anormalité au sens où l'algorithme aura appris à compresser et à réduire l'espace des métriques qu'on examine sur la base des propriétés statistiques de la population. Donc finalement, il va apprendre à reconstruire correctement les vecteurs qui sont majoritaires, les comportements normaux, et a priori, les comportements anormaux vont être associés à une erreur de reconstruction plus importante. L'intérêt de cet algorithme réside aussi dans le fait donc qu'il va fournir, il va être capable de nous fournir la contribution de chacune des métriques au score d'anormalité qu'on calcule. Le deuxième algorithme, lui, c'est un algorithme qui est plus basé sur les propriétés statistiques pures de la population de vecteurs qu'on analyse et qui, en fait, a deux composantes. La première composante, c'est tout simplement un algorithme de partitionnement de l'espace qu'on examine, c'est-à-dire qu'on va construire une forêt d'arbres binaires où progressivement et de manière récursive, on va sélectionner des hyperplans qui permettent de séparer la population de vecteurs de métriques. Et l'hypothèse étant que les anomalies sont plus rares et différentes de la masse de la population, elles vont avoir tendance à être isolées rapidement lors de leur parcours dans l'arbre. Alors, ces deux algorithmes, ils ont également une caractéristique qui est importante pour nous, c'est qu'ils sont facilement, en tout cas pour la forêt d'isolation, parallélisables. Et donc, on a aussi travaillé avec pour objectif d'implémenter ces algorithmes dans un framework de calcul distribué qui nous permet d'être indépendant de la quantité de données. On a utilisé pour ça le moteur de calcul Spark. Donc sur ce schéma simplifié, là, on voit comment nous avons implémenté le moteur d'analyse. En fait, les vecteurs de métriques sont calculés à partir de requêtes dirigées vers un serveur Splunk qui stocke les logs et permet d'agréger les valeurs et de calculer les vecteurs de métriques. Puis ensuite, dirigés vers le moteur de calcul qui effectue le calcul des scores et qui va ensuite réinteragir avec le serveur Splunk pour réinjecter les scores dans la base de connaissances que les analystes exploitent. Donc je vais repasser la parole à Erwan pour la suite.
Alors j'ai parlé des performances à évaluer. Donc, ça va consister à répondre à trois questions. Est-ce que le temps de calcul est raisonnable ? Est-ce qu'on peut détecter des comportements malveillants ? Et est-ce qu'on a des faux positifs ? Donc, pour la première question, le temps de calcul est raisonnable. La somme du temps de calcul pour le calcul des métriques et le score est inférieur à la période temporelle qui est utilisée, donc 6 heures. Donc, voilà. On ne prend pas de retard pour le calcul. Ensuite, est-ce qu'il est possible de détecter des comportements malveillants ? Alors, on ne dispose pas de données labellisées, mais la nature de données, qui sont des logs, rend possible la création de comportements malveillants synthétiques. Donc, on va créer ces comportements synthétiques et on va les injecter on va la superposer au comportement d'une adresse IP qui a de l'activité pendant la période considérée. Donc comme ça, on rajoute un signal malveillant sur le bruit de fond. Donc l'intérêt de créer des traces synthétiques, c'est qu'on maîtrise entièrement la distribution statistique des différentes valeurs des champs, ainsi que la distribution temporelle. Et du coup, on peut créer des comportements avec un degré de réalisme contrôlé. Donc, avec cette méthode, on a implémenté différents scénarios. Donc, c'est des scénarios classiques qui correspondent à une compromission des systèmes d'information. Donc, la compromission par un malware, donc son activité qui sera visible via le proxy, ça sera des téléchargements de dépendances ou des contacts avec ces serveurs de contrôle ou des contacts avec des domaines générés algorithmiquement. Et ensuite, les autres types de comportements qui sont implémentés, ce sont des actions malveillantes, comme des attaques vers l'extérieur. Donc là, on imagine qu'on a une machine de compromise et qui sert de relais pour envoyer des attaques DOS, par exemple, sur des serveurs externes au système. Et ensuite, des comportements d'exfiltration de données, donc avec différents niveaux de difficulté de détection. Dans un cas, l'attaquant va utiliser un seul domaine pour exfiltrer. Dans un deuxième cas, ça va être différents domaines avec des DGA. Et dans un dernier cas, ça va être un service web connu qui est utilisé pour exfiltrer les données et qui est par ailleurs utilisé de manière légitime par d'autres utilisateurs. Alors, les résultats. Avant de commenter, il y a un élément important, c'est l'hypothèse pour fixer le seuil de détection. Donc, je rappelle que ce n'est pas un IDS qui est construit, mais c'est un outil d'aide à l'analyse pour le hunting. Donc, les algorithmes renvoient une liste ordonnée des instances avec leur score d'anormalité. Et on s'est fixé le seuil de 5 entités qui pouvaient être analysées par les analystes pour chaque période. Donc du coup, l'attaque est considérée comme détectée si elle apparaît dans le top 5. Donc, dans notre cas, sur les 9 attaques, il y en a seulement 3 qui n'apparaissent pas dans le top 5. Mais bon, tout n'est pas perdu pour autant. Et ça, on peut le voir en comparant les 2 dernières colonnes. Donc la toute dernière colonne montre le rang de référence. Ce rang de référence, ça correspond au rang qu'aurait l'adresse IP dans la liste ordonnée des scores d'anormalité, dans le cas où on n'a pas injecté d'anomalie. Alors que la colonne juste avant, c'est le même score, mais après l'injection. Donc du coup, on gagne plusieurs ordres de grandeur. Mais malheureusement, dans les 3 derniers cas, ce n'est pas suffisant pour passer le seuil de détection. Donc voilà, donc ça c'est la détection dans le cas de traces synthétiques. Ensuite, l'analyste il sera confronté en pratique à cette interface. Donc c'est un tableau de bord. Le premier panneau présente les différentes entités donc qui sont représentées par leur adresse IP. Un bouton qui permet d'accéder aux événements générés par cette entité sur la période temporelle considérée. Et ensuite, sur la ligne, les différents scores d'anormalité qui sont calculés par les algorithmes. Ensuite, la sélection d'une entité permet d'accéder aux 2 panneaux du bas. Donc le premier à gauche va afficher l'évolution du score au fil du temps, et celui de droite, le plus important, va afficher la contribution de chaque métrique au score d'anormalité. Et ça, c'est indispensable pour pouvoir ensuite pouvoir investiguer sur l'origine de l'anormalité. Donc du coup, on va faire cette analyse dans le cas de quelques faux positifs. Donc une première anomalie est caractérisé par des requêtes HTTP de type vidéo. Donc c'est les éléments téléchargés qui sont de type vidéo, qui est très élevé. Et après investigation, il se trouve que c'est simplement un onglet d'un utilisateur qui est resté ouvert pendant la nuit avec une vidéo en boucle. Voilà. Dans un deuxième cas, c'est un taux d'exception HTTP élevé. Et après investigation, il se trouve que c'est une personne qui a essayé de synchroniser une boîte de mail externe, mais qui n'a pas très bien implémenté l'authentification. Et dans le dernier cas, c'est un poste qui était totalement sous les radars au niveau du score d'anomalie et qui est brusquement monté dans les premiers pendant quelques jours et qui après a disparu. Et les métriques qui expliquent le plus le score d'anormalité sont le nombre de requêtes de type POST et le type de requête qui est de type application. Et après investigation, il se trouve que ça correspondait à un POST informatique qui a servi à participer à une conférence ou à un exercice. Donc, dans chaque cas, ce sont des faux positifs. Ça reste de vraies anomalies, mais ce ne sont pas des comportements malveillants. Ça reste quand même intéressant à regarder. Typiquement, le dernier cas, ça aurait très bien pu être de l'exfiltration ou un comportement malveillant. Voilà, donc j'en viens à la synthèse. Donc, nous avons présenté une expérimentation sur des algorithmes de détection d'anomalies pour Gadwinting, qui ont permis donc, déjà de détecter des anomalies et certains comportements malveillants qui sont synthétiques et quand même bruyants. Donc, c'est encourageant, mais on a des axes d'amélioration. En particulier, les principales perspectives sont, d'une part, injecter des comportements malveillants beaucoup plus fins pour fixer la difficulté, pour augmenter le seuil de difficulté. Ensuite, il y a de nombreux hyperparamètres qui peuvent être modifiés, donc typiquement les fenêtres temporelles, par exemple la fenêtre temporelle de 6 heures qui peut être réduite ou augmentée. Ensuite, ce qui a été présenté ici, c'est deux algorithmes qui fonctionnent en parallèle, mais on peut en rajouter d'autres. Un élément important ensuite, c'est l'introduction de l'active learning. Alors, pour le moment, le problème de l'approche, c'est qu'on perd le travail de l'analyste à chaque itération. En fait, les algorithmes n'apprennent pas pour chaque période. On est obligé de recommencer l'analyse. Alors qu'avec une approche d'active learning, l'analyste va annoter certaines instances. Et après, en fonction de la méthode utilisée, on va pouvoir reverser ces instances annotées à un classifieur supervisé ou directement modifier les paramètres des classifieurs non supervisés pour augmenter l'acuité de l'analyse et réduire le nombre de faux positifs. Donc ça, voilà, c'est une méthode intéressante à implémenter. Ensuite, au niveau des métriques, on peut en construire de nouvelles pour essayer de détecter des comportements qui sont passés sous les radars, ou encore mieux, arriver à générer des règles spécifiquement adaptées pour détecter certains types d'anomalies qui ne font intervenir que certaines métriques. Et enfin, je vais terminer sur l'aspect temporel. Pour le moment, l'aspect temporel est pris en compte de manière minimaliste via le calcul de pics de connexion. Donc, si un comportement malveillant a une dynamique temporelle un peu complexe qui n'est pas capturée par ces pics de connexion, on risque de passer au travers. Donc, du coup, une analyse de la dynamique temporelle et une prise en compte de cette dynamique plus fine serait vraiment un avantage. Donc ça va terminer la présentation. Merci de votre attention et nous sommes prêts à répondre à vos questions.
Merci Erwan, merci Philippe et merci Frédéric. Donc voilà, nous avons déjà on a plusieurs questions en bas. On va commencer le quatrième rang.
Bonjour et merci pour la présentation. Vous avez parlé des séries temporelles à la fin, ce qui effectivement est intéressant. Est-ce que, sur Spark, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Vous avez regardé un petit peu où il y a une librairie qui n'est plus trop maintenue ou vous avez d'autres pistes que Spark pour la série temporelle ?
En fait, sous Spark, effectivement, il n'existe pas grand-chose et on cherche quand même à s'affranchir du framework d'implémentation. Mais effectivement, l'analyse des séries temporelles, elle est possible sous Spark, mais avec des outils relativement classiques. Les différentes méthodes statistiques qui permettent, par exemple, d'ajuster des régressions multiples, l'ARIMA. Il y a des choses qui existent, mais on s'oriente vers une approche comment dire, pas, enfin, il y a plusieurs dimensions à la prise en compte de la dynamique temporelle. Il y a l'analyse à proprement parler des séries temporelles de métriques qui peut révéler des patterns intéressants. Donc des séries temporelles par entité, et on peut chercher à détecter une série temporelle anormale ou une collection de séries temporelles anormales dans la population de séries temporelles. Donc ça, c'est un premier type d'analyse. Après, on peut chercher également à agréger les informations par entité pour l'ensemble des métriques et construire une série temporelle plus complexe, ou enfin, en tout cas un modèle de série temporelle plus complexe en utilisant des réseaux neuronaux comme ceux qui nous ont été présentés dans des exposés précédents, où là on va pouvoir laisser au réseau neuronal prendre en compte la dimension historique des données et les intercorrélations entre les différentes métriques. Donc ça, c'est encore une autre approche. Et enfin, pour l'application des algorithmes non supervisés, on va aussi prendre en compte la dimension temporelle, au sens où si pour certaines variables il existe un cycle, une périodicité ou des fluctuations, lorsqu'on agrège et que les fréquences dominantes sont à des échelles de temps relativement faibles, lorsqu'on agrège les données sur 6 heures, s'il y a une dynamique à des échelles de temps inférieures, les signaux faibles ils vont être perdus dans la masse des signaux forts. Donc là, il y a différents niveaux de... Mais c'est un peu indépendant des frameworks qu'on va utiliser. En fait, on n'est pas réellement contraint par l'utilisation de Spark. Mais en tout cas, nos algorithmes, ils peuvent fonctionner de manière distribuée. Voilà. J'espère que j'ai répondu.
Oui, merci.
Une question au deuxième rang.
Oui, merci pour l'exposé. C'est une question de Béotien. Qu'est-ce qui vous conduit à choisir tel ou tel algorithme? C'est la chance, l'expérience, le pif, excusez-moi. Mais par exemple, prendre cet algorithme auto-encodeur pour les images et se dire ça va peut-être donner quelque chose pour la détection des trafics anormaux ou suspects.
Alors, en fait, il y a une littérature assez riche sur les algorithmes non supervisés dédiés à la détection d'anomalies. Il y a des grands groupes d'algorithmes. J'ai pas présenté cette dimension du problème, mais en gros, lorsqu'on fait de la détection d'anomalies, on peut détecter des anomalies qui sont dites globales et des anomalies qui sont plus contextuelles. Les anomalies globales, c'est les plus faciles à détecter. C'est les vecteurs très bruyants dont on a parlé. Et là, pour détecter ce type d'anomalies, il y a des familles d'algorithmes. Les anomalies contextuelles, il y a des algorithmes qui sont plus propices à leur détection. Et en gros, nous, le choix, il est conditionné par le fait qu'on voudrait chercher à couvrir un peu tout le spectre des types d'anomalies qu'on peut détecter. Donc, la forêt d'isolation en particulier, elle a la capacité à détecter à la fois les anomalies contextuelles et plus globales. Alors que l'auto-encodeur, il aura plutôt tendance à détecter des anomalies globales. Voilà.
Dans une autre question.
Merci pour la présentation. Est-ce qu'il est possible d'avoir des ordres de grandeur des données traitées, soit en nombre de vecteurs, soit en data, par rapport à vos performances 10-15 minutes ?
Les données précises sont dans l'article, je n'ai plus exactement en détail les chiffres. On est à 10 gigas compressés par jour de log en entrée. On a plus de 10 000 IP, donc on a des matrices qui sont de l'ordre de 10 000 fois 30 000 à traiter. Donc c'est des matrices assez petites dans le cas d'usage qu'on a choisi.
Et je rajouterais que les durées qu'on cite là, elles sont aussi dépendantes de la quantité de ressources CPU et mémoire qu'on utilise. Donc là, c'était pas précisé. En l'occurrence, c'est dans un contexte où on n'utilise pas beaucoup de ressources. Mais Ce qui est surtout important de retenir, c'est que, en tout cas, nous, on l'a testé, l'implémentation est scalable. On n'est pas dépendant de la quantité de données. Et on reste dans des temps de calcul qui sont inférieurs d'un ordre de grandeur à la durée de la période sur laquelle on travaille.
Est-ce qu'on a une autre question ? Non, je ne vois pas de main. Ah, ça y est. Je me doutais bien, je le sentais bien.
Oui. J'ai une autre question. Vous avez utilisé Spark et dans Splunk, il y a des capacités de machine learning également. Pourquoi est-ce que vous avez utilisé un composant externe plutôt que les capacités de Splunk ?
Alors, en fait, effectivement, il y a des librairies de détection d'outliers qui peuvent être associées à Splunk, mais les algorithmes ne sont pas ceux qu'on voulait tester, d'abord. On n'a pas la liberté d'implémenter son propre algorithme. Sauf si on fait ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on cherche à rajouter une brique qu'on pourrait même chercher à intégrer à l'intérieur de Splunk. Et la deuxième raison, c'est que les algorithmes tels qu'ils sont implémentés dans Splunk ne sont pas parallélisés. Donc ça pose des contraintes sur la quantité de données qu'on peut traiter. Et... Voilà.